Michel Potvin est au bout du fil. Il est professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour, Michel.
Bonjour, Hélène.
28 avril, ça s'en vient. C'est lundi prochain, jour pour jour, que vont se tenir les élections fédérales. Et les partis politiques ont présenté leur cadre financier. Est-ce que vous pouvez nous résumer les grandes lignes de ces cadres, Michel?
Bien oui, pour ceux qui n'ont pas encore voté, on dit que le vote par anticipation est...
Ah oui, très populaire, très hein? 2 millions de personnes qui ont déjà voté.
Pour les autres.
Oui.
Donc, allons-y, je vais y aller en ordre chronologique dans lequel ça a été révélé ou annoncé à la presse. Le premier à avoir ouvert ses livres, c'est le Bloc québécois. Puis je dois dire aussi, en allant sur les sites là, des différents partis, que le Bloc québécois avait la présentation la plus claire, synthétique et facile à comprendre. Il y a la vertu de la clarté, certainement.
Oui.
On prévoit 132 milliards de nouvelles dépenses sur 5 ans. Ça, c'est par rapport au dernier budget Freeland là, qui avait été annoncé il n'y a pas si longtemps. Alors, ces 132 milliards-là, évidemment, on ne dira pas tout ce qu'il y a, mais les plus gros chiffres, on augmente les transferts en santé aux provinces de 11,6 milliards, toujours sur 5 ans. Il y a une aide ponctuelle pour 2 ans de 22 milliards pour aider les entreprises à passer à travers la crise tarifaire là, déclenchée par nos voisins du Sud. On augmente les dépenses en défense de 7,7 milliards, toujours sur 5 ans. Plus d'argent pour la sécurité et pension de sécurité de vieillesse, 14,2 milliards encore une fois sur 5 ans, puis 15 milliards pour le transport en commun. Donc, un énorme investissement dans nos économies. Comment on va payer ça? On veut combattre l'évitement fiscal et les paradis fiscaux, puis on pense que cette mesure rapporterait 55 milliards sur 5 ans. On veut couper dans la fonction publique, puis comme on va le voir, là, tous les partis veulent couper dans la fonction publique. 21 milliards sur 5 ans. Puis on annule différentes subventions au pétrole, à la séquestration du carbone ou la production d'hydrogène vert. Puis ça, ce serait 22 milliards, encore une fois, sur 5 ans. Il y a un manque à gagner, là, avoué, de 34 milliards sur 5 ans. Donc, dans 5 ans, le déficit serait 34 milliards ou la dette serait de 34 milliards plus élevée qu'en ce moment.
Okay.
Peut-être une petite mesure phare, là, il y en a plusieurs. On abolit la TPS sur l'achat de maisons neuves dont le prix d'achat est inférieur à 750 000 $.
Et samedi, ça a été au tour des libéraux et du NPD de présenter leur cadre financier.
C'est ça. Le Bloc, c'est vendredi dernier. Là. Je dois dire que les quatre partis, c'est très tard. La campagne électorale est presque finie. Puis on sort, on a l'impression qu'ils n'étaient pas prêts pour les élections. Je ne sais pas trop.
On dirait, hein? Est-ce que c'est une stratégie ou...
Ça sort toujours tard. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'ils veulent sentir le pouls de l'électorat, puis vers quoi on s'en va?
Bien, j'entendais ce matin qu'à l'époque de Jean Chrétien, en tout cas peut-être une fois, là, quand Jean Chrétien s'est présenté, son cadre financier était sorti presque lorsqu'il avait annoncé qu'il s'en allait en élection. Là, ça devenait la question de l'urne.
Bien, normalement, on voudrait que ça soit la normalité, là, que les partis...
Oui. Mais il n'y a pas de loi là-dessus, hein?
Il n'y a pas de loi, mais tout le monde savait qu'on a, ou ça fait un bout de temps qu'on en parle, qu'on était pour avoir des élections au début, tu sais, à la fin avril, là, où on spéculait, mais fortement. Je veux dire, soyez prêts, là.
Oui, oui, oui. Alors, là, ils sont presque tous. Donc, le Parti libéral.
Parti libéral, 130 milliards de nouvelles dépenses sur eux, c'est sur 4 ans. Donc, leur planification est sur 4 ans, la durée d'un mandat. 130 milliards, évidemment, par rapport au dernier budget Freeland, encore une fois. La défense irrite de beaucoup. Là, M. Carney tient à rejoindre le 2 % du PIB en dépenses militaires là, requis par l'OTAN. Et puis, on est à peu près, je pense, à 1,3 %, donc on est loin. Il veut augmenter les dépenses en défense de 19 milliards sur 4 ans. Il y a un 20 milliards sur un an pour combattre les tarifs. Là. Donc, on voit les deux derniers partis accordent une attention à la guerre tarifaire ou commerciale que la planète se livre et qui va nous affecter. 28 milliards dans la fonction publique. Là. On veut couper le nombre de fonctionnaires, possiblement par attrition. Tous les partis ont aussi mentionné, là, je ne l'ai pas dit pour le bloc, là, qu'on veut couper les consultants. Ce qu'on dit, c'est que le gouvernement Trudeau avait de plus en plus recours à des consultants pour différents mandats, puis on veut couper là-dedans, hein, parce que parallèlement à avoir plus de consultants, on a aussi augmenté le nombre de fonctionnaires à la fonction publique fédérale de façon significative.
Poilievre, il l'a dit et redit lors du débat francophone, notamment.
Oui, c'est ça. Donc, le manque à gagner est de 83 milliards sur 4 ans. C'est énorme. Par contre, M. Carney se défend en disant qu'il veut investir moins dans ce qu'on appelle les transferts, ou je dirais reliés à la consommation directe des ménages, mais plus dans des dépenses d'investissement. Alors, il dit, oui, on va faire un déficit, mais là, on va vous focusser beaucoup plus sur des investissements dans les infrastructures, peut-être l'aide aux entreprises, recherche et développement, puis ça va stimuler l'économie dans 4 ou 5 ans. Ça va commencer à rapporter ses fruits. Puis peut-être une mesure phare, là, on veut libéraliser le commerce entre les provinces. Ça, il faut faire attention comment ça va se faire. Il y a des provinces qui sont jalouses de leur domaine de juridiction.
Oui.
Et je pense que c'est une mesure qui est bienvenue si tout le monde peut s'y soumettre. Déjà, le gouvernement Ford en Ontario a annoncé que lui, il enlevait toutes les barrières au commerce entre les provinces pour l'Ontario.
Bon, le NPD maintenant.
NPD, plusieurs mesures sont non chiffrées, donc c'est vraiment partiel ce qu'on a. On veut mettre à peu près un 10 milliards sur 4 ans pour améliorer l'accès à des médecins de famille, avoir différents programmes incitatifs. 7 milliards pour la santé mentale. Mais on n'a pas beaucoup de détails. Ils donnent beaucoup de mesures, mais sans qu'elles soient chiffrées. Une mesure intéressante pour payer là-dessus, on veut augmenter l'impôt sur, entre guillemets, les ultra-riches. Qu'est-ce qu'on entend par ultra-riches? C'est ceux qui ont des fortunes, donc des avoirs supérieurs à 10 millions. Donc, on veut introduire une taxe sur la fortune qu'on retrouve dans d'autres pays. Puis, certainement qu'il y a beaucoup de gens comme Piketty, là, des économistes là, qui militent beaucoup pour la redistribution du revenu, qui parlent de taxes sur la fortune comme ça, qu'on n'a pas vraiment au Canada. Donc, c'est une taxe sur tes avoirs financiers. Si tes avoirs financiers sont entre 10 et 50 millions, tu paierais 1 % de ces avoirs-là comme impôt annuel. Entre 50 et 100 millions, 2 % puis 100 millions et plus, 3 % Donc, le NPD pense amasser 94 millions sur 4 ans avec cette mesure.
Le manque à gagner est un peu plus bas que celui des libéraux.
Oui, à 48 milliards, mais en même temps, ils l'estiment, mais là, on n'a pas tous les chiffres. Là. Donc, ils ont chiffré quelques dépenses, ils ont donné cet impôt sur les ultra-riches, puis on s'attend à un manque à gagner de ça, mais en même temps, il manque des chiffres. Là.
Bon, alors jusqu'à maintenant, c'est le Bloc québécois là, qui est plus clair dans son cadre.
C'est plus clair, exactement. Ouais.
Et qu'est-ce qui arrive avec le Parti conservateur?
Écoutez, je viens de voir un article sur Radio-Canada, là, ouais. Info, à 10h48. Bon, ça ne fait pas une demi-heure.
Ah, bien oui, Poilievre présente son compte financier.
C'est ça. Moi, ce que j'ai, c'est partiel. Ils veulent économiser. Eux, c'est vraiment... Bon, M. Poilievre fait une campagne là-dessus que le gouvernement Trudeau a beaucoup trop dépensé et qu'il accuse Carney d'être dans la même veine. Il compte économiser 41 milliards de dollars sur 4 ans. Ramener le déficit en 27-28 à 14 milliards. Donc, il voulait réduire le déficit actuel de 70 % d'ici 4 ans.
Bon.
Donc, ça va être plus, ça serait l'austérité budgétaire ou financière avec un gouvernement conservateur.
Et j'ai lu, Michel, je le lis là ici, il a rappelé sa série de promesses fiscales, notamment la baisse de 15 % à 12,75 %, de la première tranche d'imposition, l'élimination de la TPS sur l'achat de maisons neuves de moins de 1,3 million. En tout cas, il y en a.
Oui, ça, j'avais vu ça, oui.
Et le cadre financier prévoit que la baisse d'impôts coûtera 13,7 milliards à terme en 2029, tandis que l'élimination de la TPS coûtera 2 milliards. Mais c'est une partie, là, parce que c'est quand même assez long, là.
Oui, c'est ça.
De son cadre.
Moi, j'avais. C'est ça, ce que j'avais, c'était partiel. Là, vous avez probablement tombé sur un article plus récent.
Oui, c'est dans la presse à 10h45, Karim Benassia, qui donne plus de détails.
J'avais regardé la presse, mais probablement juste un peu avant. Je ne l'ai pas trouvé.
C'est dans la mise à jour.
Oui, j'étais dans la section affaires, moi. Non, c'est peut-être pas ça. Donc, c'est peut-être actualité. Mais,
oui.
Bon, c'est ça. Donc, mais certainement, ce qu'on peut tirer de ça, c'est que les libéraux puis le NPD semblent vouloir, et le Bloc, je dirais, dépenser plus. M. Poilievre, les conservateurs, ils vont plus vers l'austérité pour essayer d'assainir les finances publiques.
Bon. Ben Michel, la semaine passée, c'est vrai, on avait dit qu'on parlerait, que vous parleriez du plancher.
Comment on appelle ça? De l'essence.
Oui. Mais ça, c'est reporté, là, parce que c'est important de parler des cadres financiers à l'approche des élections de lundi prochain. Et puis, à un moment donné aussi, ça serait bien que vous nous fassiez une chronique sur Standard & Poor's, c'est comme ça qu'on
dit. La Côte du Crédit du Québec, là, qui a été.
À la baisse, revue à la baisse.
Je vais noter ça. Là, on pourrait en parler la semaine prochaine, à moins qu'il y ait d'autres choses. Ça va être le lendemain des élections, mais on verra. Je le note.
Le prix plancher, puis la baisse de crédit. Comment on appelle ça?
Noter, puis la baisse de crédit, bonne idée.
Parfait. Et vous terminez en nous parlant de la bourse qui a chuté hier et Donald Trump n'y serait pas étranger.
Oui, donc il n'est pas étranger à grand-chose qui se passe à la bourse depuis un mois. Ce qui arrive, je voulais le noter, c'est un peu différent. On va parler moins de tarifs. Trump n'aime pas le gouverneur de la Federal Reserve Bank, là, qui est la banque centrale américaine, Jerome Powell. Il voudrait que M. Powell baisse les taux d'intérêt. Donc, la Banque centrale américaine, un peu comme notre Banque du Canada, on a déjà parlé, est en charge de la politique monétaire. Lorsque l'économie surchauffe, il y a de l'inflation, on augmente les taux d'intérêt. Puis, quand l'économie est ralentie, on baisse les taux. Donc, c'est le même rôle que la Fed. C'est de la politique monétaire pour contrôler l'inflation. Puis, M. Trump voudrait qu'il baisse les taux, mais la Fed hésite parce qu'à cause des tarifs, la Fed a peur que l'inflation reparte de plus belle. Donc, elle prend plus son temps pour baisser les taux d'intérêt. Puis pourquoi les marchés financiers ont réagi à ça, c'est que dans tous les pays, je dirais en guillemets, économiquement sérieux, là, c'est pas tous les pays autour de la planète, mais la plupart des grands pays, on veut que notre banque centrale soit indépendante, isolée du politique. On veut pas que les politiciens commencent à jouer avec la politique monétaire et les taux d'intérêt pour favoriser leur popularité. Donc, on donne ça à un organe indépendant qui est la Banque centrale et elle contrôle les taux d'intérêt. Puis son seul rôle, c'est de combattre l'inflation. Là, M. Trump semble vouloir briser cette barrière ou ce mur entre la politique monétaire, donc la Banque centrale, et les politiciens, là, donc notamment lui. Et puis ça, les marchés n'aiment pas ça, parce que dans tous les pays où ça s'est fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la Banque centrale perd sa crédibilité, et on pourrait baisser les taux d'intérêt trop vite, puis ça pourrait générer encore plus d'inflation. On l'a vu d'une façon extrême en Turquie, là, jusqu'à à peu près un an, où on avait des taux d'inflation annuels qui avoisinaient les 80 à 100 %. Et puis, en gros, celui qui menait la politique monétaire, c'était M. Erdogan, qui est le président de la Turquie, là, je ne sais pas son titre. Donc, le président de la Turquie, puis c'est lui qui contrôlait, puis ça a généré énormément d'inflation. Depuis un an, il a essayé de maintenir plus d'indépendance, puis l'inflation diminue en Turquie. Alors, c'est pour ça que les marchés financiers ont réagi hier, c'est qu'ils craignent que la Banque fédérale américaine perde sa crédibilité que la politique monétaire tombe sous la main des politiciens, puis ça génère de l'inflation, puis ça, c'est jamais bon pour une économie.
Je vous confirme que Erdogan, c'est le président de la République de Turquie.
Président Erdogan, je mélange toujours les deux dernières consonnes.
Oui, G-A-N avec un petit sigle sur, au-dessus du
Erdogan.
G. Erdogan ou Erdogan. Alors, Michel, vous êtes professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal.
Oui, et on se reparle la semaine prochaine, oui. Possiblement de prix plancher et de Standard & Poor's.
Parfait, c'est noté. Merci beaucoup, Michel. À la semaine prochaine.
La semaine prochaine, au revoir.
Que tu as semé, terre. Si tu savais combien je t'ai manqué, ces journées sans boussole, je l'ai souvent prié. Terre, pour les amants qui se retrouvent, que dois-je mettre ce soir? Rien de parfum, de l'alcool ou du blues. Terre, de mots doux qui tremblent et nichent partout, de silence bavard. Des paupières contre-jour. Et qu'importe le jeu, j'ai ce que je veux. Hisser le pavillon bleu. Car ce soir, j'ai tout, j'ai terre. Terre d'asile pour ta peau de velours. Qui se les encore et toujours. Terre. Terre promise. Les oiseaux se souviennent de nos corps.
Toujours curieux de savoir combien de temps ils ont joué la chanson Terre, parce que c'est un long fondu chanté par Céline Dion.
tour et détour en 365 jours. À l'occasion du Jour de la Terre, Le Devoir propose une sélection de 5 avancées environnementales survenues dans la dernière année au Québec. Et puisqu'une médaille cache toujours son envers, on a aussi préparé une compilation de 5 reculs récents par Alexis Riopel et Alexandre Shields. Alors, je vous en lis un peu. Ce sont des textes quand même assez importants, mais les 5 avancées environnementales, on se concentre là-dessus. Le marché du carbone se muscle. Le Québec veut affûter son arme principale contre les GES, le marché du carbone. Le vélo gagne en popularité et que ça pédale, selon des données toutes fraîches, les déplacements à vélo ont doublé à Montréal en l'espace de 5 ans. Le chauffage fossile régresse. Le Québec se chauffe de moins en moins aux combustibles fossiles. Les aires protégées populaires. En fin 2022, le gouvernement du Québec s'est engagé à protéger 30 % de son territoire d'ici la fin de la décennie, à l'instar des pays signataires du cadre mondial de la biodiversité de Coming Montréal. Place aux véhicules électriques, le parc automobile québécois est-il en train d'irrémédiablement basculer vers l'électricité? Au cours du dernier trimestre de 2024, 40 % des véhicules neufs vendus dans la province étaient des véhicules entièrement électrique ou hybride rechargeable. Du côté des reculs récents, les caribous en malle de protection, feu vert à Stablex, vers une relance du projet GNL Québec, point d'interrogation. La saga sur le troisième lien se poursuit et les lois sous la loupe avec le projet de loi 81 actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale. Le gouvernement caquiste modifiera les 8 lois sous la responsabilité du ministère de l'Environnement du Québec. L'objectif est notamment d'accélérer l'évaluation des projets tout en générant des économies pour les entreprises.